Chapitre 29. Castle Island, à South Boston, n'est pas une île, mais c'en était une autrefois. C'est une péninsule reliée à la terre par une voie principale, Day Boulevard, qui finit en cul-de-sac dans un parking, ainsi que par deux sentiers pédestres qui mènent au Sugar Bowl, le petit parc à jamais souillé dans l'esprit de Mary Pat, car c'est l'endroit où Marty Butler s'est servi d'une sacoche pleine d'argent pour lui dire qu'elle n'avait plus d'enfants vivants sur cette terre. Tout comme l'île n'est plus une île, le château n'est pas un château. C'est un fort, Fort Independence pour être précis. L'édifice actuel, construit au milieu du 19e siècle sur le site de deux anciens forts qui remontaient au temps des pères pèlerins et des premières colonies, est en granit. Edgar Allan Poe y a été en garnison à une certaine époque. Cette expérience lui aurait inspiré une de ses plus célèbres nouvelles. Mais comme Mary Pat n'a jamais rien lu d'Edgar Allan Poe, elle n'a aucune opinion sur le sujet. Elle a appris à l'école que tout au long de son histoire, d'abord en tant que forteresse des pères pèlerins, puis en tant que fort britannique et ensuite en tant que fort américain, avant d'être un monument historique propriété de l'État du Massachusetts, aucun coup de feu n'a jamais été tiré de ses murs dans une action militaire. Mais comme tout le reste à ça aussi, se dit-elle alors qu'elle s'en approche, il a été construit pour servir au combat à la première occasion. Frank est évanoui depuis quelques minutes quand elle prend le virage près du fast-food de Sullivan au bout du parking. Il revient à lui avec un petit cri. Il est désorienté et probablement pas tout à fait lucide en raison de la quantité de sang qu'il a perdu. Elle entend ses menottes cliqueter quand il se rend compte qu'il a les poignets attachés. Elle continue sur le sentier qui longe le côté nord du fort. Le chemin est chaotique. Frank grogne beaucoup. Bess va avoir besoin de toute l'aide possible pour ce qui l'attend. Alors Mary Pat appuie progressivement sur l'accélérateur. Quand elle atteint le coin nord-ouest de l'enceinte, elle se lève carrément de son siège et enfonce la pédale jusqu'au plancher. Bess chasse de l'arrière et Frank tombe du siège en hurlant. Mary Pat écrase de toutes ses forces cette putain de pédale et rugit entre ses dents serrées tandis qu'elle encourage Bess à grimper la colline. Juste avant le sommet, les roues arrière n'accrochent plus et se mettent à patiner. Et Mary Pat comprend qu'ils ne vont pas y parvenir. Ils vont glisser en arrière, se mettre en travers sans doute, puis ils vont basculer et faire des tonneaux jusqu'en bas de la pente. « On y passe ensemble, Frank !» lance-t-elle. En réponse, Frank hurle un truc du genre « Espèce de sale connasse !» Mais Bess, grâce soit rendue à son cœur usé de vieille dame, trouve dans son moteur un dernier souffle, une ultime impulsion. Les roues arrière parviennent à agripper la terre au lieu de l'herbe et la voiture fait un bond jusqu'en haut de la côte. Quatre pneus totalement lisses, en pleine accélération qui retombent sur une herbe mouillée par une nuit d'été chaude et humide. Mary Pat n'était pas préparée à ça, et la voilà partie en dérapage et en zigzag sur le terre-plein qui mène à l'entrée du fort. Elle reprend le contrôle de la voiture juste avant de s'écraser contre les lourdes portes, et à l'instant où elle s'immobilise complètement, Bess rend l'âme. Le moteur s'arrête dans un grand soubresaut, des petits tintements et hoquets métalliques se font entendre sous le capot, le châssis frémit, pris de convulsions comme s'il faisait une crise cardiaque. Des volutes de fumée brune jaillissent de l'arrière, puis fusent dessous le capot. Pendant un moment, Mary Pat a l'impression de perdre un animal familier. Une fois sortie de la voiture, elle lui tapote le flanc. Elle essaie de trouver les mots appropriés, mais tout ce qui lui vient à l'esprit, en fin de compte, c'est un simple « merci ». Merci à la seule voiture qu'elle ait jamais vraiment possédée. Tandis que Bess continue à agoniser, Mary Pat crochette la vieille serrure rouillée de la porte principale du fort et l'ouvre en grand. Elle retourne chercher Frank, l'extirpe du plancher devant la banquette arrière en le tirant par les cheveux. Elle s'était attendue à plus de rage de sa part. Un langage brutal de dur, des menaces. Mais il est plaintif. Surpris, on dirait, de la férocité de Mary Pat. Quand il tombe sur le sol, il s'écrie « Allez, je t'en prie, Mary Pat. C'est mes putains de boyaux que je tiens là !» Elle le soulève et le remet debout. Puis elle le pousse pour lui faire franchir la porte tant bien que mal en trébuchant, mais ils ne vont pas loin, car il s'appuie sur sa jambe blessée et s'écroule. Elle le laisse étendu là un moment, tandis qu'il agite furieusement la tête dans l'herbe. L'intérieur du fort est ovale, la place d'armes et les réserves tout en bas. Les parapets et les créneaux pour les canons tout en haut. Elle traîne Franck jusque dans la première salle qu'elle voit. Les salles qui donnent directement sur la place d'armes principale n'ont de salle que le nom. Il n'y a pas de porte, pas de mobilier, rien. Elle donne plus l'impression d'être des cellules de prison. Mais elle est pratiquement sûre d'avoir entendu dire qu'on y entreposait de la poudre, des armes et de la nourriture à une époque reculée. Elle lâche Franck, le dos contre le mur, et s'aperçoit qu'il est de nouveau évanoui. Chochotte. Elle enlève de sa ceinture le pistolet qu'elle a pris à Franck. Un Colt calibre 45-1911, pratiquement identique à celui que son oncle Kevin avait rapporté de la Seconde Guerre mondiale. L'oncle Kev le sortait quand elle était petite fille et qu'ils allaient à son appartement. Et il la laissait s'asseoir sur ses genoux avec, après l'avoir démonté et vérifié la chambre. Il lui disait qu'il l'avait gardée pour deux raisons. Un, pour pouvoir toujours se rappeler la sauvagerie dont l'homme était capable à l'égard de ses semblables, et deux, au cas où les nègres leur tomberaient dessus une de ces nuits. En fin de compte, c'est sur lui-même qu'il avait retourné cette arme, le matin de Noël 1962. Elle fouille Franck. Dans sa poche, elle trouve un chargeur de rechange pour le calibre 45 et le fourre dans son sac. Elle lui enlève sa veste, la roule en boule et l'appuie sur sa blessure. Il marmonne mais ne se réveille pas. Et elle se sert du ruban adhésif en toile pour fixer et comprimer autant que possible la veste en boule sur la plaie. Elle jette un coup d'œil à sa jambe et c'est tout juste si elle ne vomit pas. Seigneur, pas étonnant qu'il ne puisse pas prendre appui dessus. Le pied est complètement tourné vers l'arrière et les os de la jambe ont perforé les chairs et ressortent comme des branches brisées. Mais ça lui donne l'idée de lui enlever l'autre chaussure. Où elle trouve un couteau. Elle l'examine. Est-ce que c'est le couteau? Celui qu'il a enfoncé sous la cage thoracique de sa fille pour lui transpercer le cœur. Elle s'aperçoit qu'il est en train de la regarder. Sa respiration est très faible. « Tu sais que tu es une femme morte. » Elle hausse les épaules. « Tu iras te balader. Oh, pardon. Tu iras ramper en enfer avant moi, Franck. Tu peux en être sûr. Sauf si tu me conduis à l'hôpital. » Sa voix est amicale, raisonnable. Elle pointe le pouce par-dessus son épaule. Plus de voiture, Franck. Elle aussi, elle est morte. Tu n'as qu'à descendre la colline. Il y a un téléphone public près de chez Sullivan. Un sourire serviable se joint à la voix amicale. Pour faire quoi déjà? M'appeler une ambulance ou appeler Marty? Elle attend un petit moment avant de répondre. Suffisamment longtemps pour voir l'espoir fleurir dans ses yeux. « Franck, » dit-elle aussi doucement que possible, « tu vas mourir ce soir. » Il ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais elle l'arrête. « Il n'y a pas d'issue pour toi, » explique-t-elle. « Aucune menace, aucune promesse, aucune largesse ne peut t'acheter une journée de plus dans cette vie. » Jusqu'à cet instant, il avait cru avoir encore une chance. Mais à présent, il se rend compte, il comprend vraiment qu'il vit dans son propre cauchemar, tout éveillé à chaque seconde. Il cherche ses yeux et elle le laisse plonger librement son regard dans le sien. Quelque part au-delà de l'enceinte du fort, un oiseau de mer pousse un cri. Le visage de Franck Toomey s'assombrit et se glace d'indignation. « Non !» Il tire sur les menottes à ses poignets. « Tu m'entends, sale garce? Non! Tu vas !» Elle plaque la paume de sa main sur le front de Franck et cogne l'arrière de son crâne contre le mur de granit. « Comment se fait-il? dit-elle, tandis qu'il essaie de faire sortir de sa tête les oiseaux qui n'arrêtent pas de piailler, que tu aies encore en toi de la rage pour moi. Tu as pris mon enfant. Tu as pris mon enfant, Franck, et le bébé qu'elle avait dans son ventre. Tu as profité d'elle. Tu as bousillé son existence alors qu'elle aurait pu la vivre pleinement. Et puis, tu as plongé un couteau dans sa poitrine et dans son cœur. Et tu te considères comme un être humain ? Elle lève la lame du couteau devant le visage de Franck. Est-ce que c'est ce couteau ? Franck la regarde fixement avec ses yeux morts. « Ne me fais pas tes yeux à la con » dit-elle, comme si ma douleur te laissait froid. « Voilà ma douleur !» Elle lui entaille la joue. « Mon Dieu ! J'ai dit baisse tes yeux à la con !» Il jette un coup d'œil à son sang sur la lame du couteau, puis baisse le regard sur ses genoux. « Si tu es encore en vie à cet instant, c'est uniquement parce que je tiens à entendre ta réponse. Comment peux-tu avoir des enfants à toi et les élever ? Comment peux-tu avoir une idée de ce qu'est l'amour et tuer une enfant ? J'ai tué des tas de gens dans ma vie, Mary Pat. Je sais. Mais une enfant, Franck ! » Il a un haussement d'épaule, les mains menottées contre le mur. Je pense pas à ça. Le sang coule de sa joue en grosses gouttes. Floc, floc.
À ça quoi ?
À tout ça. Tu es quelqu'un, c'est comme déblayer la neige. Je n'aime pas le faire, mais ça doit être fait, alors je le fais. Et mes gosses n'ont rien à voir avec ça, ce sont mes gosses. C'est quelque chose qui est à part. Ta fille, dis son nom. Jules, dit-il. C'était un problème. Elle disait des conneries. Elle parlait d'aller raconter à ma femme qu'elle était enceinte. Et elle a tué ce jeune. Elle ne l'a pas tué. Elle était avec eux quand il... Il secoue la tête. Elle l'a frappé avec la pierre. C'était elle. Elle donne un coup de poing sur sa jambe démolie. Le hurlement qu'il pousse ressemble à un cri venu du règne animal, la plainte perçante d'une proie dévorée vivante dans la savane. Il bascule sur le sol en terre battue. Il reste étendu là, la bouche ouverte, les yeux écarquillés par le choc.
« Elle ne l'a pas frappé avec cette pierre » dit-elle. « T'es juste en train d'inventer des conneries. Tu n'étais même pas sur le quai. »« Pourquoi j'ai réinventé ça ?»
dit-il d'une voix pantelante, les yeux remplis de larmes.
« Je t'en prie, ne cogne plus sur ma jambe. Mais pourquoi j'ai réinventé ça ? Qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Et bien sûr que j'étais sur ce quai !»
Elle reste silencieuse un long moment. Elle regarde la place d'armes sous la lumière d'une demi-lune.
« Je pense, » poursuit-il tout en s'efforçant de reprendre une position assise. « Je pense qu'elle a fait ça par une sorte de compassion. »
Elle le regarde.
« Quoi ? C'est possible. » Pourquoi une sorte de compassion ?
Il ne dit rien pendant un moment.
Pourquoi une sorte de compassion ? Je leur ai dit de le griller. Hein ? De le balancer sur le rail sous tension,
explique-t-il.
Le griller pour montrer à tous les autres négros de cette ville ce qui arrive s'ils viennent envahir notre quartier.
Il baisse les yeux sur le sang qui imprègne lentement toute sa veste et le ruban adhésif qu'elle a enroulé autour de lui. Sa peau est d'un bleu-blanc semblable à celle du maquereau.
« Ça n'a pas plu à Jules, » poursuit-il. « Elle n'arrêtait pas de dire « Laissez-le partir !»
Il ricane.
« On pouvait pas le laisser partir, non. Je leur ai dit « Putain, grillez-le !» Les garçons, ils ont obéi, c'est comme ça les garçons. Ils ont relevé le gars et ils étaient sur le point de le balancer entre le deuxième et le troisième rail et ouais, c'est à ce moment-là qu'elle l'a frappé. Et là, terminé. Ça ne pouvait plus passer pour un accident. Merci, Jules. Il était mort à l'instant où il a touché le sol.
Elle le regarde avec attention et se dit Comme c'est étrange que les pires d'entre nous soient si semblables aux meilleurs. En rien différent du fils de telle personne, du mari de telle autre, ou du père de telle autre encore. Aimé, capable d'amour, humain. Et c'est ça que tu pouvais pas lui pardonner, n'est-ce pas ? Lui demande-t-elle. Cette compassion. Il émet un sifflement sous l'effet de la douleur avant de répondre.
Si elle faisait preuve de faiblesse sur ce quai, où ferait-elle preuve de faiblesse la prochaine fois ? Dans un poste de police ? Dans un tribunal ? Je suis désolée, Mary Pat, mais tu le sais bien, on a un code ici. On vit et on meurt selon ce code.
Elle plonge la main dans son sac pour en sortir son calibre 38 et elle est sur le point de lui faire exploser la cervelle et l'éparpiller sur le mur en granit derrière lui quand elle entend un véhicule approcher. La voiture pénètre directement dans l'enceinte. Des portières s'ouvrent, des phares balaient la place d'armes. Marty Butler lance «
Le moment est venu de régler les comptes, Mary Pat !»